Ça marche? Ok, très bien. Donc, en fait, j'ai demandé à Lydie de venir lire le passage. On va regarder un passage en Josué, chapitre 2. Donc, j'ai demandé à Lydie de lire tout le chapitre. Voilà.
Josué, chapitre 2. Je vous préviens, c'est un petit peu long. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. » En effet, c'est pour explorer le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où l'on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. » Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage, et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous les leurs, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous le jurons sur notre propre vie, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, sinon vos poursuivants risqueraient de vous rencontrer. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Après cela, vous poursuivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous nous acquitterons du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil rouge à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et rassemble avec toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux passe la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. En revanche, s'il porte la main contre l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, quel qu'il soit, son sang retombera sur notre tête. Si par ailleurs tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit comme vous l'avez dit. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Puis elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient rentrés. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent dans toute la région, mais sans les trouver. Les deux hommes redescendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent vers Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « C'est certain, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. »
Merci Lily. J'espère que vous avez réussi à suivre l'histoire, parce que je ne vais pas faire un sommaire de tout ça, mais je veux... Dans ce passage, quand on parle de Rahab, donc j'aurais du mal à prononcer Rahab. Donc, si ça tourne en Rahab ou quelque chose de pire, merci de comprendre. Rahab vivait dans une période très difficile. Si vous pensez à elle, elle vivait dans une ville qui était face à une guerre imminente. Elle était face à la mort et elle était face à un vrai désastre qui allait arriver. Et elle vivait à Jéricho. C'était une ville importante de Canaan et c'était à l'ouest du vallée du Jourdain. Et à l'est du Jourdain, il y avait les Israélites qui étaient appelés par Dieu pour conquérir le Canaan et pour prendre possession du pays. Donc, tout le monde avait peur. Et Rahab n'était pas forcément un exemple de personne vertueuse. D'abord, elle est prostituée de carrière. Et c'est bien ça. Ce n'est pas être juste quelqu'un qui est un aubergiste, mais non, c'était vraiment une prostituée. C'était quelqu'un pas vertueuse de cette manière. Elle vivait parmi un peuple qui n'était pas du tout vertueux non plus, où il y avait beaucoup d'abominations, beaucoup d'immoralité, beaucoup de choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Et aussi, c'était une femme qui, je pense aussi, avait un peu l'habitude de mentir, l'aise et la facilité avec laquelle elle a détourné ceux qui venaient chercher les espions. Je pense que c'était une femme aussi qui avait l'habitude un peu de dire les mensonges, ne pas dire la vérité. Donc, on n'a pas une femme super vertueuse devant nous. Par contre, Rahab a plutôt un bon commentaire dans la Bible. Comment ça? On va voir un peu. Malgré, c'est pas forcément ses faiblesses morales qui sont mises en avant, c'est plutôt sa foi, c'est plutôt sa foi en Dieu qui est mise en avant selon la Bible, parce qu'on lit de elle dans le Nouveau ainsi que dans l'Ancien Testament. Et je veux voir aujourd'hui quatre choses sur le personnage de Rahab. Et ça va être assez simple, assez court, j'espère. Donc d'abord, Rahab comprenait quelque chose, c'est une personne qui comprenait quelque chose du jugement par rapport au jugement de Dieu. Ok, peut-être ça semble un peu bizarre, mais en fait, si vous lisez l'histoire de la conquête de Canaan, en tant que personne du 21e siècle, ça devrait vous faire soulever quelques questions dans votre esprit. Parce que Dieu a dit aux Israélites d'aller tuer tous les Canaanites, d'exterminer ce peuple, et c'était un jugement de Dieu qui allait tomber sur ce peuple. Il faut bien noter que Dieu a quand même annoncé ce jugement 400 ans avant, même lorsque Israël est descendu en Égypte. Dieu a dit qu'il y aura un jugement sur les gens du pays de Canaan, mais que ça n'allait pas se passer jusqu'au comble de leur péché. Et donc, Dieu a quand même été patient pendant 400 ans, mais il arrive le moment où Dieu allait juger ce pays. Et pour le juger, il allait agir par le fait que les Israélites allaient prendre le pays. Donc, et Rahab a compris cela. Si vous lisez bien dans ce passage, Rahab a compris que c'était fini, qu'en fait les Israélites allaient prendre la ville. Elle a bien compris cela. Et en plus, elle a compris, pas simplement juste que c'était les Israélites qui allaient gagner la guerre qui allait venir, mais elle a aussi compris que c'était quand même un jugement de Dieu, que quelque part Dieu était avec les Israélites. Et elle a bien compris cette chose. Et cela me fait un peu réfléchir, dans le sens que je pense que l'idée du jugement de Dieu, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop réfléchir à cela. Ce n'est pas mon sujet favori de la Bible. J'espère que ce n'est pas votre sujet favori quelque part de la Bible non plus. Et ce n'est certainement pas le sujet favori de ceux qui sont dans le monde, l'idée qu'il y a un Dieu qui est saint, qui est pur, mais qui va juger la terre qui va juger chaque être humain. Mais c'est une vérité super importante à comprendre. Et pour Rahab, elle a compris ça. Malgré tout son péché, malgré tout ce qui n'allait pas, malgré le fait qu'elle était peut-être malhonnête, elle a compris qu'il y avait un Dieu qui allait juger. Et je pense que c'est important que nous soyons au courant de ça, que nous prenions conscience de cela. Si peut-être aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui est à la recherche de Dieu, je peux vous dire que Hébreux chapitre 9, verset 27 dit « Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et je sais que lorsque je suis devenu chrétien il y a des années en Angleterre, j'ai fréquenté les églises pendant plusieurs années, mais la chose qui quelque part m'a fait aller de finalement faire quelque chose pour devenir chrétien, c'était que quelqu'un m'a communiqué quelque part ce que j'appelais la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que je n'étais pas juste, que j'étais un pécheur et que je risquais le jugement de Dieu sur ma vie. Ça m'a fait bien réfléchir. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je donne ma vie à Jésus. Il faut que je voie la solution pour ce problème. Et c'est là où j'ai demandé Jésus de venir dans ma vie, de me pardonner, d'enlever mes péchés. Et si c'est vous ce matin, vous ne connaissez pas encore Dieu, c'est bien de chercher, c'est bien de prendre le temps de bien réfléchir à tout cela, mais il vient un moment où il faut trancher. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en jeu, c'est le jugement de Dieu. Parce que Dieu est saint et nous ne le sommes pas. Et on a besoin de ce que Jésus a fait pour nous, pour avoir le pardon de nos péchés. J'espère être toujours en vie à la fin de cette prédication. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend de Dieu. Dieu, il a le droit de donner la vie, mais aussi de le reprendre. Un jour, il va reprendre ma vie terrestre. Il va le faire pour chacun de nous. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Pour nous, on va être face à un Dieu qui va nous juger, qui va évaluer notre vie. Mais c'est une réalité. Et je ne sais pas, c'est un peu comme peut-être la démarche administrative que je devrais faire et que j'ai laissé à côté pendant longtemps et que je n'arrive pas à me concentrer. On est un peu comme ça, on vit dans le moment et on ne réfléchit pas parfois à ce qui est à venir. Et les choses qui sont parfois très importantes pour nous. Et le jugement de Dieu, c'est une réalité pour chaque être humain. Et il faut réfléchir à ça. Il faut, si vous ne connaissez pas Jésus, si vous n'êtes pas sûr où vous allez après la mort, si vous serez avec Dieu au paradis ou à l'enfer, il faut bien réfléchir à ce sujet. C'est le sujet le plus important, quelque part, pour toi personnellement, pour moi, et pour votre destin. Donc, je pense pour nous en tant que chrétiens, lorsqu'on pense au jugement de Dieu, que ça devrait nous motiver à mener une vie qui plaît à Dieu. Parce qu'un jour, on sera face à lui et tout va être évalué. Ça devrait aussi nous inciter à prier pour notre monde occidental, je dirais. Parce qu'il n'y a pas... Si on fait la comparaison entre les gens de Canaan et ceux qui sont autour de nous, ce n'est pas si loin que ça quand même. Je pense qu'il nous convient de prier. Prier pour que l'Évangile soit prêché. Prier pour que l'Évangile avance. C'est 2 Pierre chapitre 3, verset 9 qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. Voulons qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Dieu est patient. Dieu ne juge pas les choses. Dieu tarde avec son jugement. Mais il y a un danger avec ça, qu'on pense que le jugement ne va jamais venir. Mais le jugement va venir. Mais Dieu est patient. Et c'est pour ça que ça devrait nous encourager à prêcher l'Évangile. Ça devrait nous encourager aussi, en tant que chrétien, à être reconnaissant pour le pardon de nos péchés, d'être reconnaissant du fait que Jésus a payé notre dette, que nous sommes sûrs dans notre relation avec lui et que nous avons le pardon et on a un moyen d'éviter le jugement qui va venir. Mais quand même, même en tant que chrétien, il ne faut pas oublier qu'il y aura un jugement. Il ne faut pas oublier qu'on a un Dieu saint. Il ne faut pas oublier que, oui, il faut que nos vies changent. Il faut que nous soyons là pour ceux qui sont perdus. Mais Rahab, malgré tous ses défauts, malgré tous ses problèmes, elle était consciente que le désastre allait venir, que le jugement allait venir. Elle était consciente de ça. Au moins, elle avait cette révélation. Elle savait finalement que ça venait de Dieu aussi, que c'était Dieu qui était avec les Israélites qui amenaient ce jugement. OK, ça devient un peu plus facile après. Deuxième point. Deuxième chose par Rahab. Rahab comprenait que le Dieu des Israélites était le vrai Dieu. Et en fait, elle dit une chose intéressante. Elle dit que, verset 11, elle dit que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Que votre Dieu, il est Dieu au ciel, mais aussi sur terre. Ça m'a interpellé un tout petit peu parce que la Bible dit que le ciel raconte la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Romains que les hommes sont sans excuse car les choses concernant Dieu sont manifestes dans la création. Les perfections invisibles de Dieu et sa puissance sont claires depuis le début, depuis la création. La Bible aussi dit que quelque part l'éternité est inscrite et écrite dans le cœur des hommes. Et on sait que Dieu est visible au ciel. Lorsqu'on voit la création, lorsqu'on voit la beauté de la nature, j'avais mon petit-fils cette semaine et on a vu un petit papillon comme ça, juste de à peu près de cette distance. Mais c'est un truc merveilleux. Ça peut s'envoler, ça a des petites pattes, ça a des antennes, c'est joli, c'est incroyable. Si Dieu a créé juste ce petit papillon, on dirait « Waouh, Dieu, il est incroyable ». Mais Dieu a créé toute une création. Il a créé tout un univers. Lorsqu'on regarde les étoiles, lorsqu'on regarde la Voie lactée le soir, Dieu, il est un homme. Dieu a créé tout ça. Donc, Dieu est grand dans le ciel, mais aussi, elle a reconnu que Dieu était grand sur la terre. Donc, pour Rahab, elle a pris conscience du fait que c'est Dieu qui a ouvert le mer Rouge pour le peuple. Elle était au courant de ça. Donc, elle voyait que Dieu faisait des miracles, faisait des choses extraordinaires sur terre. Et elle voyait cela. J'ai entendu cette semaine une petite histoire qui m'a beaucoup touché de quelqu'un dans notre église. Donc, il y a une famille dans l'église qui est un peu en difficulté, qui a très peu de moyens. Cette famille traverse une période très, très difficile. Et la famille avec les petits-enfants part en vacances. Et puis, ils dépassent Marguerite, ils vont vers les Alpes. Ils partent de Montpellier, ils dépassent Marguerite. Ils arrivent à Avignon. Et la voiture tombe en panne. Il trouve un McDo et là, il donne quelque chose aux enfants et il se dit, comment on va dire aux enfants que c'est fini les vacances? Parce qu'ils n'avaient pas vraiment de moyens de faire autre chose. Donc, ils étaient en train d'être là et de juste décider ce qu'ils allaient dire. Et puis, il y a un texto qui vient d'un membre de notre église qui dit, j'ai prié pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Le mari il dit, oui, OK, je vais l'appeler juste pour le dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on est tombé en panne. Et ce monsieur, il a une deuxième voiture. Il ne savait pas, mais... Et en plus, ce n'est pas une petite voiture. C'est une belle voiture. C'est un Mercedes. C'est quelque chose de bien. Et il dit, ah oui, vous pouvez prends ma voiture. Donc, ils ont pris un taxi et ils arrivent et le monsieur, il a la belle voiture. Il a rempli de l'eau, il fallait faire. Ça a des fenêtres qui descendent, qui montent comme ça. C'est un peu de tout. Et en plus, il a mis un peu d'argent dans la voiture pour payer le pétrole pour le retour. Il a donné un bip pour l'autoroute et tout ça. Et voilà, ils étaient bénis. La vacance était de retour. Et ils sont partis dans les arbres, ils ont fait ça. Mais j'étais très touché par ça, que Dieu parle à une autre personne, que cette personne a aussi l'écoute de Dieu, cette personne a aussi le courage d'envoyer le petit texte et dire « Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Et que par la suite, il y a eu la générosité de la personne. Et j'ai dit pour en fait, c'était la femme du couple qui m'a raconté cette histoire. J'ai dit, elle a dit, c'était un tel témoignage pour nos enfants. Tu vois, les petits-enfants, ils voient ça, ils voient qu'ils étaient en difficulté, et Dieu a répondu. Et j'ai dit, ils vont s'en souvenir de ça pendant des années. Et ils vont voir que Dieu est grand, pas simplement dans le ciel, mais sur la terre aussi. Et nous avons un témoignage à porter aux autres, au monde, de la grandeur de Dieu et ce que Dieu peut faire ici sur terre. Ça dépend de Dieu, mais quelque part, ça dépend de nous aussi. Ça dépend quelque part de notre obéissance. Il faut s'en souvenir que les Israélites avaient l'appel d'être une bénédiction pour toute la terre, pour les autres nations. Mais l'histoire de l'Ancien Testament nous montre que malheureusement, ils ont pas arrivé à le faire. Ils ont pas amené ce salut aux autres, à part par Jésus, bien sûr. Mais nous avons un rôle de montrer aux ceux autour de nous que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Et ça dépend de nous aussi. Ça dépend quelque part de notre réponse, notre obéissance, notre ouverture à ce que Dieu veut faire à travers nous. Et Rahab avait cette révélation, malgré toutes ses faiblesses, malgré tout son péché, elle avait cette révélation de Dieu. Dieu grand dans le ciel et Dieu grand sur la terre. Et Rahab, troisième point, et les points deviennent un peu plus courts chaque fois, Rahab a été sauvée par sa foi. En fait, le Nouveau Testament parle de Rahab et sa foi. Par exemple, elle dit, Hébreux 11, verset 13, dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Et Jacques aussi parle de ça. Jacques chapitre 2, verset 25, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par notre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc Rahab avait la foi. Rahab était sauvé par sa foi. Ce n'était pas juste quand même une question de qu'elle avait juste une croyance en Dieu, mais elle a agi selon sa foi. Par la foi, quelque part, elle a caché les espions. Par la foi, elle les a aidés à s'échapper. Elle a fait des choses concrètes qui montraient la réalité, qui montraient quelque part la réalité de sa foi. Et Jacques dit que comme Abraham a été considéré juste lorsqu'il a offert Isaac, son fils, à Dieu, et c'était par les choses qu'il a fait qu'il a montré sa foi, c'est par ses actes aussi que Rahab a montré sa foi en Dieu. C'est en faisant ça. Ça, c'est un rappel pour nous, je pense, que notre foi n'est pas juste « je crois quelque chose », mais notre foi, on met en action. Rahab a dû faire quelque chose. Elle a dû avoir une conversation avec les espions pour qu'elle soit sauvée. Si elle a juste caché les espions, si elle n'a rien demandé, rien dit, il n'y aura pas de salut pour lui et sa famille. Et c'est un peu comme nous, si on ne connaît pas Dieu. Il y a un moment où on doit demander à lui, « Pardonne mes péchés, viens dans ma vie, je veux te suivre. » Il y a une démarche à faire, il y a quelque chose à dire, et il y a une repentance de nos actes, de notre passé à faire pour devenir chrétien. Donc on ouvre la bouche, on parle, on demande Dieu de nous sauver, comme Rahab a parlé aux espions. Mais aussi, en tant que ceux qui ont la foi, c'est nos actes qui comptent. Comme Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais la foi va forcément faire suivre des œuvres. Si on a la véritable foi en lui, ça va changer nos actions, notre comportement. Ça, on va se débarrasser des choses qui déplaisent à Dieu. On va suivre Dieu, on va être dans l'Église, on va servir, on va faire du bien autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on a la foi, et la foi se manifeste par nos actes, par nos actions. Et ça, c'est un rappel pour nous aussi. Donc, Rahab a été sauvé par sa foi, et sa foi s'est montrée par ses actes. Et quatrième point sur Rahab, c'est Rahab s'est jointe au peuple de Dieu. Rahab est devenu un peuple, est devenu un membre du peuple de Dieu. Parce que, par exemple, Josué, chapitre 6, verset 25, dit que Josué laissait la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous les siens. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, lorsqu'on va à Matthieu chapitre 1, verset 5, on voit « Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Obed de Ruth. » Donc Rahab, elle est là dans la généalogie de Jésus. Rahab, la prostituée cananite, est dans la lignée de Jésus, de la famille de Jésus. C'est assez frappant, hein? Et que Dieu permet ça, qu'on voit ça. Mais Rahab, elle n'est pas juste restée seule avec sa foi en Dieu, mais elle est carrément devenue un membre du peuple d'Israël, du membre du peuple de Dieu. Et ça part pour nous. On devient chrétien, on vient au Seigneur, on est né dans une famille, on est enfant de Dieu, on a des frères et sœurs, et on est censé faire partie de ce peuple et d'une famille. Dieu a toujours voulu une famille, elle a toujours voulu un peuple pour lui-même. Jésus est mort pour avoir beaucoup de frères, pour avoir une famille, et nous devons faire partie. Dieu nous établit dans la famille de Dieu, et il nous convient aussi de faire partie de cette famille de Dieu. Il y a une petite chose que moi et d'autres dirigeants d'église, souvent on se plaigne. Lorsque je suis devenu chrétien, tout le monde allait à l'église chaque dimanche. Et si, comme Farid, on fermait l'église, ce n'était pas sérieux, quoi. On allait tous les dimanches à l'église. Il y a de bonnes raisons, Farid, c'est bien. On prend le relève pour le 20, le 27. Mais bon, non, mais quand même, et les chrétiens, depuis le début de l'Église, ont toujours pris cette habitude de se rassembler le premier jour de la semaine et d'être ensemble, d'être là avec le Saint-Esprit au milieu, comme on a eu ce matin. On a dit, oh, merci pour la présence de Dieu. Mais lorsqu'on rassemble, Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et Rahab faisait partie du peuple de Dieu. Et nous sommes appelés à être partie du peuple de Dieu. Comme c'est écrit en Hébreu, n'abandonnons pas nos assemblées. Il ne faut pas abandonner l'assemblée. Il faut être là, il faut être présent, il faut faire l'effort, même s'il fait canicule, d'être présent ensemble. Parce qu'il y a la clim ici, mais plus que ça, c'est le Saint-Esprit est au milieu. Et Dieu veut parler à son peuple, Dieu veut nous édifier, Dieu veut nous encourager lorsqu'on se rassemble comme ce matin. Bien sûr, la famille de Dieu est beaucoup plus de choses. C'est dans la maison, c'est dans la récréation de la cuisine, c'est dans les choses qu'on fait ensemble, c'est dans chaque aspect de nos vies. Mais quand même, le culte, c'est important. Le culte, lorsqu'on se rassemble, on est là pour Dieu, on est là avec son esprit au centre, C'est super, super important pour nous. Bon, je me suis dit, bien, OK, c'est une jolie histoire. Pourquoi je parle de ce passage? Je me suis posé la question. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce passage? Pourquoi pour l'église de Marguerite, je parle de ces choses? En fait, je ne savais pas trop pourquoi je faisais ça. Mais j'ai pris un peu par rapport à ça. Et je pense que Dieu veut vous encourager en vous rappelant qu'il y a beaucoup de gens comme Rahab autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre qu'il y a un Dieu dans les cieux, sur la terre, qui vont prendre conscience de leur péché comme Rahab et qui vont trouver le salut à travers Jésus-Christ. Et Dieu veut que vous soyez prêts pour cela. Il veut que vous priez pour cela. Je pense que vous ne devez pas avoir peur si les gens qui sont enfoncés dans le péché, dans plein de choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, soient là au culte le dimanche matin. Il ne faut pas en avoir peur. Ce sont des gens comme Rahab. Ce sont des gens qui sont loin de Dieu. Mais Dieu va les transformer par la foi. Il va leur donner par grâce, ils vont recevoir la foi. Et ils vont mettre leur foi en Jésus. Et c'est la foi qui va changer tout. Ce sont des gens qui vont se débarrasser de leur ancienne manière de vivre et qui vont devenir membres du peuple de Dieu. Je pense aussi, peut-être, dans cette histoire, il y avait les espions qui ont rencontré Rahab. Et je sentais peut-être que Dieu dit à certains dans cette assemblée, vous êtes des espions. Pas pour l'église de la sauce pour voir ce qui se passe ici. Vous êtes des espions dans le sens que vous allez... Non. Dans le sens que Dieu vous envoie. Dieu vous envoie là où se trouve Rahab, là où se trouvent ceux qui sont dans le besoin. Que Dieu envoie certains, peut-être certaines personnes, vous allez dire dans votre cœur, oui, je pense que c'est moi. Dieu vous envoie vers ceux qui sont vraiment dans le besoin, ceux qui sont loin de Dieu, comme Dieu a envoyé ses espions chez Rahab. Et la suite de ça, c'est qu'ils ont parlé avec Rahab, ils ont eu une conversation avec elle, et c'est par là, elle et toute sa famille a été sauvée du jugement qui tombait sur Jéricho. Il y a certains ici que Dieu veut envoyer un peu comme ses espions. Je pense que aussi ce passage nous rappelle que c'est un rappel qu'il y a un enjeu, que quand même il y a un jugement, il y a un salut. En fait, ce qui se passe autour de nous dans la société, c'est aussi critique pour les gens qui ne connaissent pas Dieu que c'était pour les gens qui étaient dans la ville de Jéricho face à une armée qui allait les détruire. En fait, parce que le jugement, les deux sont, il s'agit de jugement. Mais le jugement va venir après notre mort. Mais les gens ont besoin d'écouter, d'entendre le message de Jésus. J'étais assez touché par la parole de Lydie tout à l'heure. Cette plante de basilic qui avait des racines qui poussaient par les trous en dessous le pot, il faut le reporter, je ne sais pas comment dire, to report it, je ne sais pas comment dire en français, de le mettre dans un autre pot, un pot plus grand, pour que ça puisse pousser. Peut-être c'est certains ici aussi, ça parle à certains ici, Dieu veut vous remporter, veut vous mettre dans un nouveau pot. Mais le but, c'est que les gens comme Rahab, les gens qui sont loin de Dieu, vont entendre la bonne nouvelle de Jésus. J'ai un cinquième point que je n'ai pas divulgué au début, mais qui est très, très vite. C'est qu'elle a mis un cordon rouge dans la fenêtre. Ça me rappelle du sang au-dessus des portes lorsque le destructeur allait prendre les premiers nés lors de la sortie d'Égypte. Mais ça parle aussi sûrement pour moi du sang de Jésus. Le sang de Jésus qui représente le sacrifice de Jésus qui représente tout ce que Jésus a fait par la croix. Le Nouveau Testament nous dit que le sang de Christ a un meilleur message, parle mieux que le sang d'Abel. Abel qui a été tué par son frère et son sang crie de la terre à Dieu. Ça crie du péché, ça crie du fait que l'être humain est mauvais. Mais le sang de Jésus parle de manière. Parce que par le sang de Jésus, nous sommes considérés justes grâce à son sang. Romains chapitre 5, verset 9. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Éphésiens chapitre 2. Nous sommes devenus proches de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 20 nous dit que Dieu a fait paix à travers Jésus-Christ par son sang versé. Nous avons la paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ, selon Hébreux 9, nous purifie d'autant plus. Purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Et Hébreux 10 nous dit que le sang de Jésus, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Et que 1 Pierre 1 nous dit que nous avons été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que ont transmis nos ancêtres par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés. Le sang de Jésus parle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, de nous, notre nouvelle identité, de l'assurance de notre relation avec Dieu. Ça parle du pardon de nos péchés, ça parle à nos cœurs qu'il n'y a plus de culpabilité pour nos péchés parce que Jésus a payé notre dette. Ça nous donne un accès libre dans la présence de Dieu. Quel privilège. Et ce cordon, pour moi, ça représente ce que Jésus a fait pour nous. Donc, merci de m'avoir écouté. J'aimerais bien qu'on prie. Peut-être on peut se mettre debout, peut-être, et on a quelques minutes pour la prière.